José aime les lisières. En montagne, il choisit toujours les lisières. Il apprend à Elia les forêts ombragées, les sentiers rocailleux et ardents, avant d'atteindre les cols et les sommets des Pyrénées, entre l'Espagne et la France. Il se plaît à jouer entre les deux pays. Si la crête est rocailleuse et abrupte, avec la minutie légère d'un isard, il la longe, la parcourt, méthodiquement, d'un pas concentré, s'arrête entre les deux espaces, aux aguets. Il appelle Elia, lui montre les différences entre les deux vallées, les toits des cabanes des bergers au fond, les reliefs arides de l'Espagne, et même la couleur des nuages lui ouvre un autre monde. Elia ne voit pas les variations. Pour elle, les frontières sont arbitraires. La nature ne change pas d'aspect quand on a passé la borne, celle qu'ils cherchent tous les deux. C'est à celui qui la trouvera le premier et courra pour la toucher, qui marque la halte bienvenue après l'effort du chemin. José parle des sommets qui s'imposent face à eux. Il les nomme, les découvre, les retrouve. Ils sont ses jalons. Elia sait qu'il parle d'autre chose, d'un paysage intérieur qui le rend heureux, auquel elle n'a pas accès. Allongée dans l'herbe piquante qui hérisse le sol en petites dagues aiguisées, elle absorbe le silence. C'est un autre silence plus absolu que celui de la mer. Parfois, elle aimerait s'arrêter sur une plage, retrouver le chuintement des vagues. José ne supporte pas cette idée. Il dit: la montagne, c'est la liberté. La mer est une immense geôlière et les hommes, ses prisonniers.
Merci. Nous venons d'entendre Marie-Hélène Nounès, qui est l'auteure d'un second roman intitulé Leur chemin, et c'est un extrait de son livre, dont c'est le tout début. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Tout d'abord, nous allons nous vous présenter, puisque vous êtes une enseignante, vous êtes une professeure de lettres classiques à la retraite, c'est cela?
Oui.
Dont vous aimez beaucoup les mots, beaucoup l'écriture. L'écriture, c'est votre passion depuis toute petite, peut-on dire. Mais là, c'est dans votre second roman et vous avez fait ça quand vous avez été à la retraite, on peut dire ça comme ça?
Oui, oui.
Vous avez sauté ce pas au moment de la retraite.
Oui, oui.
Parce que vous aviez plus de temps ou...
Oui, il y a la question du temps. Pour moi, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, qui n'était pas vraiment conciliable avec l'agitation du métier.
Oui. D'accord. Votre premier roman n'avait rien à voir avec celui-ci. Vous pouvez nous en dire juste deux mots?
Non, mon premier roman n'a vraiment strictement rien à voir. C'est un roman sur un couple, donc beaucoup plus fermé, où il n'y a que deux personnages et une relation perverse qui s'installe dans le couple.
Mm-hmm. Donc là, Leur chemin, c'est le titre donc, de votre roman, est publié aux éditions Hasard Atelier Éditions. Et ce roman a pour décor les Pyrénées.
Oui,
dans toute leur majesté, si l'on peut dire.
Oui.
Puisqu'en fait, le point de départ, c'est l'exil des républicains espagnols qui franchissent l'école pour passer de l'autre côté de la frontière et puis qui malheureusement se retrouvent dans des camps. Et ensuite, dont ces personnes, bien sûr, ont des descendants. Et c'est toute cette trajectoire que vous évoquez dans votre livre. Mais nous allons en parler avec un peu plus de temps, puisqu'en fait, nous avons pratiquement une heure. Et d'abord, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder cette thématique ? En sachant que vous-même, vous avez des origines ibériques, mais que vos ascendants étaient venus plutôt au début du XXe siècle, donc avant la rétirade.
Oui, oui, ce n'est pas une histoire familiale du tout.
C'est parce que vous avez des amis, enfin, que vous avez rencontré des personnes et qui avaient...
Voilà, c'est ça. J'ai écouté des amis, et il y a beaucoup de Toulousains qui sont d'origine espagnole, et des gens dont les parents ont vécu la retirada, l'exode espagnol de 39 et même d'avant, mais surtout de 1939. Et donc j'ai écouté ces récits et de même j'ai écouté le récit d'une famille dont le père venait alors d'Allemagne pour, qui avait fui le régime
hitlérien,
nazi,
oui.
Voilà,
mm-hmm.
qui avait été prisonnier d'abord,
mm-hmm.
Donc qui était un opposant, mais pas un déserteur, si je peux dire, et puis qui donc s'est retrouvé dans la région toulousaine. Donc le récit, ces deux récits ont constitué la base de mon roman. J'ai effectivement recherché ensuite des...
Oui, tout un travail de documentation.
Voilà, de la documentation historique sur ces trajectoires venant d'Espagne et venant d'Allemagne. Mais ce n'est pas un roman historique.
Oui, oui.
Ce sont simplement ces deux personnages qui ont traversé l'histoire, la grande histoire.
Mm-hmm.
Et ensuite, de ces personnages qui sont la base de ma construction, il y a la génération suivante, mmh, avec mes deux personnages
principaux,
centraux, mmh, qui sont José et Elia, mmh, qui se rencontrent à la quarantaine. C'est un couple qui se forme pas tout jeune, mmh, à la quarantaine. Et d'autres personnages
se greffent.
Mmh. Voilà. Donc c'est un roman avec une multiplicité de personnages qui, au départ, n'ont pas l'air d'avoir des liens, et peu à peu, on verra...
Les choses se dessinent.
Voilà.
Mm-hmm. Bon, leur chemin, mais, parce que leur chemin, ça a un double sens. Il y a le chemin de tous ces gens qui cheminent, c'est le cas de dire, mais aussi il y a le chemin intérieur.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai mis leur chemin au pluriel.
Oui.
Je le dis parce que ce n'est pas visible à la radio.
Oui, oui.
Il y a un S à leur et à chemin. Et... Parce que effectivement, comme en montagne, les chemins, les sentiers galopent en tous sens. Mmh. Ils descendent sur les versants, les monts, parfois se rejoignent, s'éloignent, etc. Donc ici, ce sont les chemins de la montagne, des Pyrénées très particulièrement, dont on reparlera sans doute, mmh, et les chemins des personnages. Les personnages ont affaire à voir dans leur histoire avec les Pyrénées. Mmh. Donc, j'ai lu le passage où José amène, initie Elia,
sa compagne,
à la randonnée dans, mmh, les Pyrénées. Et lui, il est toujours à la lisière. Le livre s'ouvre, José aime les lisières. Il est à la lisière, un pied en France, un pied en Espagne. Mmh. Donc, vraiment, c'est son chemin, c'est sa quête identitaire, mmh, si on peut dire, entre France et Espagne. Puis, on va découvrir au fil de la lecture ce qu'il cherche et pourquoi il les cherche entre Espagne et France. Mmh. C'est aussi le chemin d'Elia et de José, l'un vers l'autre. Mmh. Ils vont l'un vers l'autre.
Leur rencontre, leur façon de se connaître,
voilà,
et de vivre, de construire une histoire commune, si on peut dire.
Voilà. Ils ne savent pas en quoi encore, au début, vers qui et vers quoi ils vont. Mais ils sont en marche, quoi. Mmh. Donc, leur chemin, c'est leur identité, leur construction personnelle. C'est donc aussi une histoire intime, une géographie intime à, mmh, travers les chemins. Quelquefois, d'ailleurs, des chemins un peu lointains, puisqu'il y aura une digression même jusqu'à l'Inde, mmh, de Elia lorsqu'elle était jeune. Et ensuite, les chemins de la grande histoire, mmh, dont on a un peu parlé, qu'on évoquera plus longuement.
Oui, la petite histoire et la grande histoire qui se rejoignent,
voilà,
si on peut dire.
Les chemins... se déroule dans les Pyrénées, une grande partie en France et surtout dans la région,
oui,
du sud-ouest,
oui,
et du sud de la France. Et puis, finalement, toutes les problématiques se dénouent petit à petit et tout se renoue tout à fait à
dans
la
les
fin.
Dans les Pyrénées.
Et du côté espagnol,
mmh,
du côté espagnol, mmh, au Val de Boye, exactement, pour les gens qui connaissent au Val de Boye.
Non, d'une certaine manière, on peut dire que la boucle est bouclée.
Oui.
Puisque c'était donc le père, enfin, la maman de José, elle était petite fille quand elle est arrivée en France.
Oui.
Et ensuite, bon, lui, il a un âge, il est adulte, quoi.
Oui.
Et il se retrouve, oui, de l'autre côté des Pyrénées. Et donc, c'est comme ça, cette quête qui peut-être trouve son, comment dire, son apaisement d'une certaine manière.
Oui, et oui, c'est ça. Finalement... ils passent tous vers la fin de l'autre côté des Pyrénées.
Mm-hmm.
Bon, c'est une situation que je ne veux pas révéler ici, puisqu'il faut que le lecteur ait envie d'aller jusqu'au bout du livre. Mais après ces lisières, on va arriver dans un lieu stable, un point d'arrivée vraiment.
Oui, oui. Puisqu'en fait, bon, les réfugiés qui sont arrivés en transit, et après, bon, c'était dans des conditions très dures, déplorables, et vous en parlerez un peu plus tard. Et là, quand les personnages plus contemporains, dirons-nous, se retrouvent de l'autre côté des Pyrénées, donc en Espagne, c'est pour leur plaisir, d'une certaine manière, dans une forme d'apaisement, oui, pour leur plaisir.
Oui et non, je dirais, parce que...
C'est quand même plus...
Oui, ils font de la randonnée, ils découvrent la beauté des sommets pyrénéens, Mais c'est toujours vers là qu'ils vont et que José entraîne Elia. Il l'entraîne vers son histoire personnelle en cela.
Oui, bien sûr.
Elle doit l'accompagner, si oui. Elle veut être sa femme, elle doit l'accompagner vers l'exil que la famille espagnole a connu. José, c'est évidemment un prénom espagnol, José, et il amène Elia là. Mmh. Et même quelquefois, elle se demande, il monte le col d'Arès, mais pourquoi il nous fait passer par ce passage, il fait très froid en plein hiver, et elle ne le comprendra qu'ensuite. Donc, c'est quand même un choix particulier de cet endroit pour faire des randonnées, oui. Mmh.
Donc avant que de cheminer, si nous pouvons dire, dans notre entretien, je vais vous demander de parler de la façon d'écrire que vous avez choisie, en sachant qu'il y a des incessants retours entre l'époque, dont, disons, 36-39, et puis quelque chose de plus contemporain, en passant par 68. Donc en sachant que les deux héros, José et Elia, avaient 20 ans en 60... c'est ça, en 68. Et donc après, ça arrive donc à notre époque, on va dire contemporain, pour faire plus simple. Donc ce sont comme ça des allers-retours incessants. Pourquoi avez-vous choisi cette formule, si je puis dire? Était-ce pour une histoire de rythme, pour justement bien montrer aussi, parce que dans votre roman, il y a aussi cette transmission consciente ou inconsciente, d'ailleurs, ça dépend. Et puis le fait que... notre appartenance géographique, socio-culturelle, de toute façon, a toujours une influence sur notre existence au quotidien. Alors, avec peu ou prou de difficultés, ou c'est selon les personnes, ça c'est variable. Mais il y a quand même toute cette histoire de transmission et de petites réminiscences qui font que les personnes se dirigent vers telle ou telle direction. Alors, était-ce pour ça que vous aviez voulu faire ces allers-retours incessants entre ces différentes périodes?
Alors, il y a plusieurs réponses. C'est vrai que le livre n'est pas linéaire. Mmh. Ça, c'est une première chose. D'où peut-être au début de la lecture, pour le lecteur, une espèce de perte de repère. Mmh. Il ne sait pas pourquoi on parle d'un personnage ensuite d'un autre, dans une époque différente. Il peut y avoir un doute au début. Et on quitte parfois un personnage, il y a ainsi un personnage essentiel qui va traverser le roman, qui est Hans. On le trouve d'abord au chapitre 9, il ne réapparaît qu'au chapitre 17. Donc on se demande pourquoi, ce qu'il est devenu, pourquoi il disparaît comme ça. Mais on va le retrouver. Alors, pour ne pas se perdre, pour ne pas perdre le lecteur et moi-même, l'auteur, j'ai plusieurs stratégies, si je peux dire. Il y a des dates. Certains chapitres ont des dates très claires. Par exemple, au chapitre 2, c'est le 5 février 1939. C'est vraiment une date précise où il y a eu un gros mouvement d'exode de l'Espagne en France, sur les côtes du Roussillon en particulier. Généralement par le Pertus, moi j'ai mis mes personnages par la montagne, ils sont passés dans la montagne par le col d'Arès, ce qui a été vrai aussi, mais la grosse foule est passée par le Pertus, donc là il y a une date très précise, historique. Il y a ensuite des phrases clés auxquelles on peut prêter attention. Par exemple, tout à l'heure j'ai terminé la lecture sur un passage, sur les mots de José qui dit « La mer est une immense geôlière » et les hommes, ses prisonniers. Cette phrase va revenir au chapitre 4, donc trois chapitres
plus loin.
Elle est reprise parce que, et au chapitre 4, on comprend pourquoi José a proféré cette phrase un peu étrange, parce que généralement...
Oui, qui peut être énigmatique, oui.
Elle est énigmatique.
La mer, c'est signe d'évasion pour certaines personnes. Et...
de liberté.
Oui, oui.
Et là, pour lui, c'est la prison.
Oui.
Et les hommes, c'est prisonnier. Et on ne le comprendra que plus tard. Et donc, au chapitre 4, c'est pas très loin d'ailleurs. Ou bien, il y a quelquefois des indices qui sont vraiment comme des fils très ténus que l'on tisse d'un chapitre à l'autre. Et parfois insignifiant. Je vais vous en donner quelques exemples.
Oui.
Par exemple, José, dont on reparlera, a pour métier kinésithérapeute. Et il a une manie quand il a des clientes femmes. Il leur enlève les chaussettes.
Des patientes.
Oui, des patientes. Oui, des patientes, c'est plus exact. des patientes, eh ben, quand elles sont sur la table du kiné, ouais. Il enlève les chaussettes.
Ce qui peut paraître étrange, puisque justement, par définition, sur le table du kiné, des fois, la personne ne bouge pas, donc elle a un peu froid.
Voilà.
Parce que souvent, justement, les kinés mettent des petites couvertures, justement.
Voilà. Et lui, il l'enlève. Et Elia, qui est sa patiente, avant qu'ils se rencontrent, elle n'aime pas ça parce qu'elle a froid aux pieds, justement.
Ben, oui.
Voilà. Et on trouve ça étrange. On peut ne pas y prêter attention, c'est un petit détail. Et plus tard, on verra que ce petit geste est un geste un peu d'exorcisme, parce que en fait, ses chaussettes lui rappellent un souvenir tragique de son adolescence, et on ne le comprendra qu'après.
Qui a à voir avec sa maman.
Voilà, ça a quelque chose à voir avec sa maman.
Avec Catalina.
Voilà. D'accord. Un petit détail aussi qui peut passer inaperçu, il y a un autre personnage qui erre dans les chemins du roman, qui s'appelle Claire, qui est une jeune fille.
Et qui cherche sa route, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme.
Oui, qui cherche sa route.
Claire, donc la lumière.
Voilà. Qu'elle n'a pas trouvée, qu'elle ne trouvera elle aussi que plus tard. Et elle a une écharpe multicolore Elia arrive à lui faire accepter une écharpe multicolore pour changer ses vêtements. Et cette écharpe multicolore, à la fin, sera un fil qui va guider les personnages vers une issue. Voilà. Alors, il y a comme ça des petits indices. Et pour répondre à votre première question, comment j'ai construit ce livre, Je ne peux pas, moi, écrire de façon linéaire. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai un thème ou un chapitre dans la tête qui fait jour. Exemple, le camp d'Argelès, dont on parlera. Ou un mot. Et à partir de ce mot, j'écris un chapitre. Et ensuite, je les organise les uns par rapport aux autres. Voilà. Et c'est le surgissement d'un mot qui fait surgir une situation, un peu comme quand on réfléchit à la mémoire.
Oui.
En fait, nous sommes dans une situation et nous reviennent des souvenirs.
Oui, ce n'est pas linéaire non plus,
voilà,
la mémoire.
Ou des odeurs qui nous rappellent
l'enfance,
une situation ou l'enfance. Voilà. Et ça se passe comme ça, mon écriture. Un mot me guide ma plume, enfin mon ordinateur plutôt, vers une autre situation que je n'ai pas prévue. Ça, je ne l'ai pas prévue. Et
oui,
ça se développe comme ça.
Oui, au fil de votre écriture et de votre pensée, des idées, des mots surgissent et se nouent entre eux.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui est passionnant parce qu'en fait, je n'ai pas d'a priori. J'ai des a priori de départ quand j'écris, mais pas de fin de chapitre,
bien sûr,
par exemple. Voilà.
Ouais, vous cheminez, vous aussi. Oui. C'est au fil du cheminement que...
Tout à fait. C'est le chemin de l'écriture aussi.
Vraiment, c'est... Oui, le titre, leur chemin, ça a vraiment un sens très, très important, très profond.
Oui, oui.
Peut-être, pour faire simple, nous allons justement évoquer cet exode dont de ces personnes qui ont fui le régime franquiste... Donc qui cherchaient la liberté, entre guillemets, du moins qui se libéraient d'un joug, mais qui certes n'ont pas été accueillis de l'autre côté des Pyrénées, forcément à bras ouverts, puisque vos personnages sont dans le camp d'Argelès et puis aussi dans le camp du Vernet. Et vous voulez peut-être en dire deux mots, notamment d'un point de vue historique, parce que j'imagine que vous avez fait beaucoup de recherches par rapport à ces deux camps, que vous avez fait beaucoup de documentation pour pouvoir avoir en parler précisément.
Oui, donc le personnage de Catalina qui traverse les Pyrénées, alors on voit la traversée.
C'est une petite fille à l'époque.
Elle a 13 ans, elle est avec son petit frère et sa maman.
Parce que le papa, il est sur le front.
Il est sur le front, il est dans ce qu'on appelait les rouges, contre les franquistes.
Contre les franquistes.
Et on n'a pas de nouvelles. Et donc petit à petit, et surtout à la chute de Barcelone, tout le monde s'est précipité vers la France.
Vers les Pyrénées.
Vers les Pyrénées.
Enfin, de l'autre côté des Pyrénées, pour faire plus simple.
Et effectivement, il y a eu, entre la fin janvier 39 et mi-février, donc en très peu de temps, 15 jours, 3 semaines, un exode très massif, 500 000 personnes sont passées. C'est absolument énorme quand on voit les chiffres d'aujourd'hui par rapport aux réfugiés. Oui. Bon, c'est absolument énorme. Et 250 000, très rapidement, sont arrivés sur les plages du Roussillon.
Oui.
Et bon... C'était l'impréparation totale de la part de la France. Mmh. On n'imaginait pas qu'il y ait un tel rush de
qu'il
personnes.
Aura, oui.
Certaines sont arrivées en camion, d'autres à pied, beaucoup à pied.
Beaucoup à pied, oui.
Voilà. Et des civils, aussi des militaires, les soldats de l'armée d'opposition à Franco, évidemment, sont passés. Des enfants, des femmes, toute la population, surtout après la chute de Barcelone. Et ce qu'il s'est passé, c'est que on les a, après ces marches harassantes, on les a poussés, c'est le cas de le dire d'ailleurs, vers les plages. Or, sur les plages, ils ont eu la désagréable surprise, et le mot désagréable est bien faible, l'horrible surprise de voir qu'on les installait sur des plages où il n'y avait rien, que du sable. On a installé des barbelés de part et d'autre des plages, et au fond, et devant, il y avait la mer. Et voilà le sens de la
oui.
phrase.
Que la mer est une geôlière.
Une geôlière et les hommes, c'est prisonniers.
Oui, puisque là, ils ne pouvaient pas prendre la mer. Contrairement à ceux, aux exilés, après nous en reviennent, aux migrants actuels qui, eux, souvent viennent par la mer, à l'heure actuelle. Mais,
Oui, qui sont aussi prisonniers de la mer souvent.
Oui.
Mais pour d'autres raisons.
Oui, oui.
Et là... Il faisait très froid ce mois de février 39, puisque la température a descendu jusqu'à moins 20. Les gens se sont trouvés avec une couverture qu'ils avaient emportée sur cette plage. Quand on connaît les plages du Roussillon, on sait qu'il y a une tramontane
oui, bien sûr,
épouvantable, oui. Qui est difficile parfois de se tenir debout. Il n'y avait aucun baraquement, aucune tente, aucun abri.
Aucune
condition d'hygiène.
D'hygiène, bien sûr.
Pas de toilette. Rien pour se laver, on se lavait à la mer.
Une nourriture très pauvre.
Aucune nourriture n'était prévue les premiers temps. Après, ça s'est organisé. Mais enfin, le camp d'Argelès, alors c'est très connu dans cette région, mais peut-être qu'ailleurs c'est moins connu en France. Le camp d'Argelès a fait le plein en une semaine. Ce qui fait qu'on a ensuite construit d'autres parcs, construits entre guillemets.
Oui, aménagés de façon rudimentaire.
Voilà, le Barcarès, Saint-Cyprien,
toute la côte.
Donc les gens à Argelès, pour s'abriter du froid et du vent, ont construit... n'ont pas construit, ils ont creusé
dans le sable
des trous dans lesquels ils ont dormi, les uns contre les autres, serrés pour avoir chaud,
bien sûr,
enveloppés dans leur couverture. Il y a eu beaucoup de morts par le froid, par la faim aussi. Et très vite, les baraquements ont surgi après et les femmes... ont été dispersés en France, emmenés en car. Bon, il y a eu une prise en charge. Mais les hommes ont pu rester quand même de longues années dans ce camp. Et les baraquements ont surgi donc à la fin. Bon,
vous avez peut-être une illustration de...
Oui, ce que je veux dire, c'est que tout cela a été abondamment écrit et que je n'ai pas, je n'ai pas détaillé. Je me suis attachée à des anecdotes.
Bien sûr, oui.
Et plutôt qu'à des faits historiques, parce que les camps d'Argelès particulièrement est très, très connu. Il y a eu beaucoup d'historiens.
C'est-à-dire que vous situez vos personnages et il faut quand même, vous faites une présentation sommaire de où ils étaient hébergés, entre guillemets, on ne peut pas dire hébergés, enfin, où ils étaient, où ils passaient leur journée, quoi. C'est le terme le plus...
Oui, le passage que je vais lire, c'est sur cette langue espagnole qui va comme ça surgir en France. Enfin, surgir dans cet endroit de France.
Mais oui, c'est leur langue d'origine et c'est l'important de la parler, de continuer à la parler, justement. Oui. Puisqu'ils ont dû fuir leur pays, fuir le franquisme, mais il y a cette langue.
Voilà. Jour et nuit... Bruit la langue espagnole. Le vent mêle les accents des Andalous à ceux des Catalans, les chants des Asturiens à ceux des Montagnards, les jurons, les plaintes, les discours exaltés ou rageurs, les révoltes et la désespérance. La langue espagnole s'ancre, s'étire sur la plage du Roussillon. Elle est l'empreinte de l'exil,
la terrible consolation. Rien ne prend dans le sable, dit Barbara, c'est la maman, la femme de la terre, aucune racine, mes enfants. Écoutez la grande rumeur du camp. Il nous reste cela, seulement. Parlez, parlez notre langue. Elle est notre seule patrie. Catalina se le jure. Elle plantera sa langue au-delà des montagnes blanches des Alberts. Elle l'attachera à la terre de France. Elle fera de chaque modulation, de chaque inflexion, une racine. Elle a appris dès l'enfance la ténacité des pousses fragiles dans les sillons caillouteux. Elle croit à la fertilité de sa langue. Elle la dressera comme les chants révolutionnaires que chantent les hommes, point levé, malgré les menaces des gardiens.
Merci. Une autre caractéristique aussi de ces camps, dont beaucoup d'Espagnols sont arrivés, enfin ont été parqués, il faut appeler hein, les choses par leur nom, il y avait aussi des opposants, d'autres opposants, et notamment des opposants au régime hitlérien. Et donc ils se sont retrouvés, enfin disons, toutes les personnes qui gênaient, entre guillemets, se retrouvaient dans ces camps du sud de la France.
Alors, ça, c'est plus sur la côte du Roussillon, oui. C'est après, c'est un peu plus tard, oui, mais historiquement. Voilà.
Oui, mais il y a quand même...
Effectivement, il y a un lien, parce que lorsque la guerre de 39 va se déclarer en France, les étrangers vont être perçus comme, tous les étrangers, comme indésirables et emprisonnés, arrêtés et emprisonnés. Et particulièrement dans le camp du Vernet d'Ariège, par lequel passe Hans, un de mes personnages.
Qui lui a fui l'Allemagne.
Qui a fui l'Allemagne, voilà. Et dans les camps du Roussillon, on évacue petit à petit les personnes des plages. Et certains hommes vont aller, de nombreux Espagnols au début, vont aller vers le Vernet d'Ariège. Entre février, puisque je parlais de février tout à l'heure, 39 et septembre 39, il y a environ 10 000 Espagnols qui ont été emprisonnés au Vernet d'Ariège. Ce camp que les gens appelaient camp de concentration était un véritable camp de concentration, très dur, surtout au début, avec ce froid terrible dont j'ai parlé. Et ensuite, à la fin de la guerre,
la Seconde Guerre mondiale,
on le débaptisera, puisque les camps de concentration sont les camps nazis, en fait. On les appellera ainsi. Les camps d'extermination, en fait, nazis, sont appelés camps de concentration. Et on demandera à ceux qui perpétuent la mémoire du Vernet d'appeler ce camp du Vernet camp de prisonniers. Et actuellement, il y a une campagne faite par les personnes qui s'occupent de la mémoire au Vernet à travers un petit musée et des activités nombreuses. Ils veulent se réapproprier ce terme de camp de concentration du Vernet d'Ariège.
C'est un camp que vous avez visité, c'est ça?
Oui, et le camp, on voit les terrains, il n'y a plus rien. Par contre, dans le musée, c'est très intéressant parce qu'il y a la mémoire des gens qui sont passés là.
Et sous quelle forme?
Alors, des documents.
Oui. Des documents personnels aussi.
Des documents personnels, oui. Des dates, oui. Des archives, des petites maquettes qui retracent la géographie du camp.
Oui.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Comme tous les étrangers étaient indésirables, au début il y avait des femmes aussi dans ce camp, surtout des hommes, on a enfermé tous les opposants italiens à Mussolini.
Oui, voilà, tout ce qui était contre les fascismes divers et variés,
si
je puis dire.
Voilà, de l'Europe. Particulièrement de l'Europe de l'Est aussi,
oui.
Et donc des gens qui sont devenus des écrivains, des dramaturges, des poètes. Par exemple, Arthur Kessler, écrivain, a écrit à partir du camp du Vernet et des conditions du camp. Bon, il y a eu ainsi un mélange de populations incroyable avec les Espagnols qui étaient là à l'origine. Et d'ailleurs, c'est la langue espagnole qui s'est répandue dans le camp, qui est devenue la langue du camp.
La langue officielle, entre guillemets, du camp.
Voilà.
Oui, parce qu'il fallait bien arriver à se comprendre, si on peut dire. Et donc, ces gens se sont solidarisés entre eux, forcément, vu leurs conditions.
Oui.
Et puis ils avaient tous un même idéal, c'est-à-dire retrouver un semblant de liberté, du moins, mais aussi fuir le joug oui. fasciste.
Voilà, c'est ça. Et alors ça a été pour certains comme le personnage de Pedro, qui lui vient de l'Espagne de la montagne, qui est enfermé là parce qu'il est communiste. Et il va faire une véritable éducation, son éducation politique et son éducation populaire au contact de toutes ces personnes. Alors en fait, ça prend le contre-pied de ce que voulait un peu l'administration française. On, on a fait un mélange de gens qui, très politisés.
Et se sont entraidés et ont continué leur combat, si on peut dire.
Oui, et se sont formés, vraiment. Oui, c'est très intéressant. Et c'est passionnant, hein, la visite du camp du Vernet, parce qu'il y a des vies entières qui passent par là. Quoi.
Et actuellement, vous pouvez nous parler du conservateur du musée ?
Alors, c'est une association.
D'accord.
Hein, le président s'appelle M. Kubel. La personne, moi, que j'ai contactée, c'est un membre de l'association. Et ils font des conférences. Oui, il y a des visites. L'été, il y a beaucoup de gens qui viennent de différents pays pour retrouver leurs parents, leurs proches, leurs ancêtres.
Oui, pour cheminer aussi
à
la rencontre de leurs origines, si on peut dire, de l'origine de leurs parents ou grands-parents.
Oui, c'est ça. C'est vraiment très intéressant et très important pour l'histoire.
Et puisque il y a un extrait dans votre livre, justement entre ces deux personnages, entre Pedro et Hans, dans le camp, qui est très fort et qui montre comme ça cette solidarité.
Oui. Oui, Pedro, donc l'Espagnol. Et Hans qui vient d'Allemagne.
Et qui est passé par Toulouse, entre-temps.
Oui, et qui est passé...
Qui a longé les quais de la Garonne.
Par Toulouse.
Et donc, il y a comme ça une entraide, forcément, dans des conditions qui sont tellement dures, tellement horribles. Mais la vie est toujours là, si je puis dire, malgré tout. Vous recherchez votre petit passage.
Je cherche mon passage parce que... oui, alors c'est peut-être un peu plus loin, je ne sais plus, c'est cette rencontre très importante. Là, voilà. Hans a 22 ans. Son cœur déborde. Il pleure, Hans, comme il ne l'a jamais fait depuis son départ d'Allemagne. Il pleure d'une rage qui pourrait bien le pousser à casser la gueule à un gardien, à se jeter sur les barbelés, à hurler comme un chien qui voit la mort dans les myriades d'étoiles au-dessus du camp, dans le défi de leur beauté. La main calleuse de Pedro sur son genou, la voix calme de Pedro. « Parle, mon fils, raconte-moi. » Il lui dit « Mon fils » en français. Depuis combien de temps n'a-t-il pas entendu ces mots, mon fils ? Hans pleure. Ce ne sont plus des larmes rageuses. Elles sont douces à présent. Une caresse paternelle coule sur ses épaules. Et les mots se mêlent aux pleurs, et les mots étanchent les pleurs. J'ai fui les nazis dans mon pays. Et les voilà dans la ville même où j'avais trouvé un travail. Tourneur sur métaux. C'est ma formation, j'avais appris le métier en Allemagne. J'ai aimé la France, sa langue. Je peux dire que j'ai aimé ces 2 ans passés dans le sud. Et les bottes sont arrivées. Leurs bottes. Celles que je ne voulais ni entendre ni chausser. Ils sont arrivés les miens qui n'étaient plus mes semblables. Toi, tu peux le comprendre, les tiens, ceux de ton village, parfois même de ta famille, qui ont trahi le pays dans le camp des franquistes, tu te demandes s'ils ont encore du sang espagnol dans leurs veines quand ils ont le sang de leurs frères sur leurs mains. C'est toujours la même histoire. 2 camps pour un même pays, ceux qui restent, pactisent, et ceux qui fuient, qui luttent, qu'on enferme. Les frères deviennent les ennemis.
Merci. Je trouve que c'est très important de rappeler ce genre de choses, cette entraide qu'il y avait, et puis aussi tous ces opposants qui se retrouvaient parqués au même endroit. Peut-être nous allons faire une pause musicale et vous pouvez nous dire pourquoi vous nous avez suggéré la Paloma Negra de Chavela. Parce que vous en parlez dans le roman, enfin vous l'évoquez brièvement.
Oui, la Paloma Negra de Chavela Vargas est une chanson que José fait écouter à Elia dans une scène, disons, de séduction, et c'est leur première rencontre intime. Mm-hmm. Et donc il y a cette musique, et avec cette Paloma Negra qui tourne autour de la pièce.
Et pour rappel, José et Elia sont les deux héros contemporains de votre roman.
Voilà, dont on n'a pas encore beaucoup
parlé. Mais nous allons en parler très bientôt, voilà. Après la chanson. Merci.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Merci. Donc nous allons reprendre notre conversation avec nos deux héros contemporains, à savoir José, donc qui est descendant de famille espagnole, réfugiée, et Elia, qui elle est une jeune femme qui a plutôt appartenu à un milieu, bon, petite bourgeoisie peut-on dire, hein, qui avait des parents bon, pas très câlins, dirons-nous. Le père caressait les livres et la maman, c'est vrai qu'elle était assez rigide. Et puis Elia avait une sœur et cette sœur, c'était l'aînée. Elle avait toutes les qualités et donc Elia en a ressenti comme ça quelques, quelques petites contrariétés. Et c'est en fait la rencontre de ces deux personnages qui, chacun de leur côté, ont une histoire qui a laissé des séquelles, entre guillemets, et qui vivent avec ça, qui construisent à partir de ça, parce que toujours on fait avec notre appartenance géographique, socioculturelle, parentale. Donc voilà. Et il faut préciser que José est kinésithérapeute et Elia a des soucis de dos et donc c'est sa patiente durant un temps, mais après voilà, ça se transforme et peut-être je vais vous demander de lire le passage que moi je trouve très sensuel, très beau.
Alors effectivement c'est un passage avant leur relation intime, un passage sur le travail de José.
Donc avec toute cette présence du corps, parce que je trouve aussi que c'est intéressant en miroir, puisque dans les camps, les corps étaient malmenés, pas que les corps, les âmes, enfin l'homme, les êtres humains étaient malmenés. Et là, de par le choix de ce métier, je trouve que c'est... Il répare d'une part, il répare les corps, mais aussi les esprits, parce que souvent les douleurs lombaires, elles ont une origine psychosomatique, si on peut dire. Et puis aussi, il les magnifie, enfin la description que vous en faites, ce sont des gestes comme ça, bien sûr, très précis, qui ont un sens, mais c'est aussi source de vie, si on peut dire, d'une certaine manière. Et donc je trouve que c'est un effet miroir avec ces corps qui ont été malmenés, et lui, au contraire, il les répare.
Les mains furent le prélude à leur relation. Les mains de José, pendant la séance de thérapie, passaient de la légèreté, même parfois de l'effleurement, à la pression appuyée, pour se répandre en larges mouvements glissant le long des chaînes musculaires du dos d'Elia, cette nouvelle patiente qui ne pouvait se défaire de lombalgie chronique. Elia, au fil des semaines, avait appris le chemin des mains du soigneur, respirer à peine pour ne pas troubler leur passage et ne se laisser distraire par aucune pensée qui aurait pu la détourner du moindre changement, ralentissement, glissement, pression immobile, étirement, qui obéissait à un rituel obscur, à la fois semblable et imperceptiblement différent d'une séance à l'autre. Parfois, alors qu'elle appréhendait que le geste ne s'arrêtât, celui qui l'amenait à l'autre geste, vers une autre partie du corps et qui inéluctablement conduirait vers l'issue du massage, elle s'étonnait de sentir les mains prolonger le mouvement, à moins qu'elle n'eût perdu tout à fait le sens du temps qui passait, comme si le masseur n'était pas pressé de finir et se plaisait à offrir à son corps le large nuancier des partitions que ses doigts savaient jouer. La chaleur se diffusait dans ses entrailles. Il lui avait expliqué plus tard que certaines douleurs du dos pouvaient être apaisées par le massage du psoas. Parfois, il glissait une main sous sa culotte pour atteindre ce muscle blotti quelque part sous les intestins. Alors, elle fermait les yeux précautionneusement.
Merci. Donc, dans ces différentes séances de kiné, il y a un jour où José dit à la patiente Elia que son travail est fini, qu'il arrête les soins. Et donc, c'est de là, après, que se construit, que naît cette histoire d'amour entre eux.
Oui, c'est un peu compliqué au début entre eux.
Oui, mais enfin, ça revient à ça. Il ne faut pas tout dire.
Non, il ne faut pas tout déflorer. Et effectivement, c'est à partir de ces séances qu'il lui donne un rendez-vous chez lui, mais bon, d'une façon un peu embrouillée. Parce que ce que l'on peut dire, c'est que, comme au début, José est à la lisière dans les montagnes, il est aussi à la lisière du
dans
désir
sa vie
avec
personnelle,
les femmes.
Ouais.
Et voilà pourquoi, en fait, il lui faut tout ce temps de rencontre. Et c'est compliqué.
Et pourquoi il utilise des subterfuges aussi, peut-être.
Voilà, des détournements avant d'arriver à la femme qu'il aime. Oui.
Parce que donc, nous avons commencé donc, par cet exode qui était très dur, brutal, enfin bon, tout ce que nous en sait. Et puis là, donc, José est un descendant donc, de... de
ces apatrides.
Voilà, qui ont fui, et dont sa maman était en Transis, elle avait 13 ans, hein, c'est oui. ça, Catalina. Donc voilà, il a grandi. Donc il y a toutes ces, comment dirais-je, ces séquelles qui restent, en fait, toute cette tristesse. Et elle allait passer, quand elle était jeune fille, enfin adolescente, elle passait ses vacances justement à Argelès. Et cette plage, ça l'a, il y avait des choses qui la tourmentaient, comme ça l'avait des questionnements. Et puis elle allait, comment dire, elle pense qu'elle n'a pas été très très aimée, ou du moins pas comme elle le souhaitait. Donc tous les deux ont des fêlures comme ça, des fragilités, et ces deux fragilités vont se rencontrer pour justement vivre une histoire d'amour, mais aussi c'est une formidable histoire de vie, parce que là c'est vraiment une ode à la vie, cette rencontre. Et puis le fait aussi, de par sa profession, ses corps qu'il répare, enfin, c'est vraiment Eros dans toute sa splendeur, si je puis dire. Vous pouvez nous en parler, le fait que vous ayez choisi de continuer l'histoire ainsi.
Oui.
Avec cette transmission, forcément, qui se passe.
Effectivement.
Ces réminiscences.
Oui, vous l'avez tout à fait justement dit pour José. Et en fait, pour Elia, qui vient d'un tout autre milieu, vous l'avez dit, il y a cette empathie qu'elle a en elle, très jeune, pour les gens qui ont vécu l'exil.
Ça la tourmente.
Ça la tourmente, elle ne sait pas pourquoi. Ouais. Et en fait, c'est cette fêlure, on peut dire, qui va l'amener vers José, qui va lui permettre de comprendre, puisqu'elle a, dès le début, beaucoup de sympathie pour la mère de José, qui est morte, mais José lui parle beaucoup de sa mère, de l'exode, et lorsque Elia traverse les Pyrénées, fait des randonnées, elle pense sans cesse à ce passage qu'ont fait les exilés, et à cette femme qu'elle trouve courageuse. José lui montre des photos, etc. Donc elle entre dans l'intimité de José et dans la problématique de l'exil, alors qu'elle ne l'a pas vécu, par l'empathie. Et la question qui la taraude jusqu'au bout, et elle trouvera une réponse tout à fait
vers la fin,
vers la fin, c'est: comment fait-on pour survivre? C'est la question que nous nous posons tous devant des situations tragiques de l'exil, mais aussi de la souffrance, bon, des camps, etc. Comment supporte-t-on? Comment fait-on? Et cette question qu'elle porte, et il y a plusieurs détails dans le livre que je ne vais pas révéler, fait que finalement ce cheminement avec José va lui permettre de comprendre et surtout d'approcher de près cette réalité.
Et il y a aussi un certain nombre d'années de différence, si on peut dire, des mots qui résonnent exactement de la même manière. C'est quand Catalina, vous souhaitez avoir un second enfant, et que son mari, vous m'arrêtez, lui dit: non, pas tant qu'il y aura des fascistes. Et puis, donc, quand Elia et José ont leur histoire, un jour, Elia a envie d'avoir un bébé, et elle le dit aussi ouvertement, et lui aussi lui répond de façon très brutale, en disant: non, pas question, enfin, parce qu'il y a cette réminiscence, si on peut dire, donc il le poursuit.
Oui, oui, c'est la difficulté qui va petit à petit s'apaiser,
s'estomper,
se résoudre, quand ils sont vraiment en fusion l'un avec l'autre. Mais effectivement, il a ressenti de la part de son père la tragédie de son père, qui, en tant que qu'exilé, qu'apatride,
qu'être humain responsable,
voilà,
si on peut dire,
cette difficulté de faire un enfant, c'est-à-dire d'être responsable d'une vie qui peut ensuite être prise dans les grandes tourmentes de l'histoire, et voilà, et être à son tour souffrante. Et donc José transporte cette peur qu'il a sentie chez son père, voilà, ça c'est tout à fait exact. Et Elia ne comprend pas, et c'est à la fin.
Elle est blessée parce qu'elle pense qu'elle n'est pas assez importante à ses yeux,
voilà,
pour voilà, qu'il veuille
voilà,
concevoir un bébé avec
voilà,
elle.
Donc s'attacher à elle pour une
donc
vie.
Elle repart dans dans son questionnement comme ça, voilà, et ça la renvoie aussi au fait que quand elle était petite fille, elle se sentait moins considérée que sa grande sœur, qui avait juste un an de plus qu'elle, mais qui avait été parée de toutes les qualités apparemment. Donc elle se sent comme ça toujours un peu exclue, d'une certaine manière exilée, mais exilée psychique, si je puis dire.
Oui, On n'a pas du tout évoqué, c'est pas très important, mais quand même, la profession d'Elia, elle est vendeuse. Elle est vendeuse de vêtements, de prêt-à-porter, au moment où les deux personnages se rencontrent. Elle a erré avant, elle aussi, dans d'autres chemins.
Oui, elle a cherché sa voie.
Elle a cherché sa voie.
Dans des communautés en Inde, avec son milieu familial.
Voilà. Elle est dans les communautés, effectivement, de l'Ariège encore ou des Pyrénées, il y en avait beaucoup.
Dans l'Ardèche aussi.
Oui, là, elle est dans l'Ardèche, mais il y en avait beaucoup aussi dans la région.
Oui, je sais.
Et voilà, dans l'Ardèche. Ensuite, elle partira en Inde. Et c'est vrai, vous l'avez dit, sa maman, en fait, sa maman est médecin. Et donc, elle a une image très haute de la profession de sa mère, et elle sent que jamais elle ne pourra faire des études aussi poussées et avoir ce métier de celle qui soigne.
Elle commence à vouloir faire des études d'infirmière, mais après...
Elle échoue, parce que c'est toujours l'image de sa mère, voilà, qui l'a fait échouer dans toutes les professions qu'elle va essayer de faire. Et lorsqu'elle revient après le parcours en Inde, où elle rencontre d'ailleurs en Inde quelqu'un, bon, enfin, je ne vais pas tout dire, et ça la renvoie aussi à ce métier de médecin. Et puis, quand elle revient et qu'elle rencontre José, eh ben, il faut bien prendre un métier. Elle prend le métier de vendeuse. Et ça lui plaît beaucoup parce que ça la met en relation avec un autre personnage qui glisse un peu dans le roman.
Anna.
Qui est la grand-mère. La grand-mère d'Elia, qui était couturière.
Oui.
Et qui avait ce contact avec les tissus, les étoffes, à une époque où il n'y avait pas de prêt-à-porter, où on faisait tout à la maison, les robes, les manteaux, qui coud. Et donc là, Elia, qui a toujours aimé beaucoup sa grand-mère,
c'était son souvenir tendre, si on peut dire. Voilà. Là, c'est la tendresse, elle l'avait auprès de sa grand-mère et auprès de tous ces tissus et de ces dames qui venaient pour essayer les vêtements.
Donc elle est heureuse dans ce métier de vendeuse parce qu'elle est...
Elle retrouve quelque chose de son enfance positif, si on peut dire.
Le contact avec ces femmes qui cherchent des vêtements, qui choisissent des étoffes, la renvoie aux séances d'essayage chez sa grand-mère, etc. Et c'est un métier qui lui plaît beaucoup. Et elle pense, évidemment, sa mère dirait que ce n'est pas un métier, mais
que c'est futile.
Voilà, que c'est futile. Et voilà. Donc ça, ce sont effectivement ces blessures. Mais petit à petit, toutes ces choses vont s'apaiser, comme on le disait, et ce métier devient un métier vraiment à part entière et qui l'épanouit.
Oui, où elle est contente. Et parce qu'aussi, il y a les tissus aussi ont quelque chose aussi de sensuel, je trouve, selon la soie, par exemple. Non, parce qu'il faut bien toucher les vêtements, déjà, pour les présenter. Et puis après aussi, pour les empaqueter, éventuellement. Donc, il y a aussi comme ça quelque chose de physique aussi, et quelque chose aussi, une ode à la vie, parce qu'aussi les vêtements, c'est vrai, nous sortons habillés, et selon les choix des vêtements que nous faisons, mais nous avons nous n'avons pas la même approche des choses. En fait, ça signifie quelque chose, le choix des vêtements aussi. Et c'est aussi une façon de continuer de poursuivre son chemin, si je puis dire.
Tout à fait. Sans, là aussi, révéler trop.
Oui, non.
Voilà, on verra que... justement, dans sa jeunesse de 68 tard, il y avait un type de vêtements pour faire opposition aux vêtements rigides, costumes, cravates, etc. des parents. Et là...
Plus baba cool, quoi, dirons-nous.
Baba cool, voilà. Et là, on le retrouve à la génération présente avec la jeunesse marginale.
Oui, la jeune fille qui...
Voilà, la jeune fille marginale qui a aussi une sorte d'uniforme, entre guillemets, de vêtements. Voilà. Et qui traduit la marginalité. Oui. Et là, il y a un passage effectivement très important dans la boutique d'Elia avec cette jeune fille.
Oui, ou dans cette jeune fille dont elle se méfie un peu, Claire, puisque c'est son compagnon qui la connaît. Elle a un grand chien. Elle ne cause pas beaucoup parce qu'en fait, elle est dans ses problématiques, elle se cherche. Et tout, enfin, comment dire, le moindre petit détail trouble Elia en fait, parce qu'elle est peut-être, elle est tellement peu sûre d'elle-même, et quand elle s'approche du bonheur, entre guillemets, elle a toujours peur que ce bonheur s'échappe. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et donc, la moindre petite note discordante, elle l'agrandit peut-être, enfin, elle l'aperçoit de façon négative.
Oui, il faut aller vraiment jusqu'au bout du livre parce que tous ces personnages qui sont différents et qui apparemment n'ont pas de relation, évidemment, ont quelque chose.
Oui, oui, il y a quelque chose en commun.
En commun que l'on trouvera à la fin.
Oui, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Donc, ensuite, l'histoire chemine, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a une rencontre aussi vers la fin du livre, une rencontre qui est très importante, qui se déroule toujours dans ce décor majestueux des Pyrénées, mais de l'autre côté, donc côté espagnol, avec comme ça une forme peut-être d'apaisement, je dirais, enfin, il me semble.
Oui.
Peut-être, déjà, les gens ont mûri, ont grandi, ont trouvé quelques réponses à leurs questionnements, justement en cheminant, en continuant à cheminer et il y a comme ça une fin, oui, un peu apaisée me semble-t-il.
Oui, tout à fait, les personnages c'est au Val-de-Boy, pour les gens de la région qui connaissent, c'est un très bel endroit effectivement, il y a beaucoup de descriptions des Pyrénées, mais ce ne sont pas des descriptions gratuites, je veux dire, ce ne sont pas des décors, ce sont toujours des...
Ça a un sens,
voilà.
Très profond.
Voilà. Et aussi bien pour Hans, dont on a parlé, pour José, dont on a parlé, pour tous les prisonniers aussi qui voient
ces montagnes,
en face. Et c'est terrible parce qu'ils sont dans un décor putride, fangeux, et il y a cette beauté de la nature en face. Certains viennent de l'Espagne de l'autre côté, d'autres découvrent les Pyrénées, ceux qui sont arrivés par l'Est. Et tous ont ce choc de la montagne. Les Pyrénées sont toujours une quête de l'intime. Hein. Ce ne c'est pas du tout un décor. Et les descriptions sont variées, comme les montagnes sont changeantes, selon les saisons,
bien sûr, oui.
Selon les heures de la journée.
De la journée, oui. Selon les différents endroits, les différents villages. Enfin,
voilà. Donc, je tiens à le dire parce que c'est vraiment un personnage qui joue un rôle important pour les êtres.
Mais ces Pyrénées, donc, qui sont si belles et qu'ils connaissent, puisqu'ils sont venus de l'autre côté, donc ils les ont traversées d'une certaine manière. Mais là, dans ce camp, elles sont là dans toute leur majesté. Mais aussi, ils ne peuvent pas les franchir. Et d'une certaine manière, ça peut être aussi étouffant, parce qu'il y a ce grand bloc-là. Fussent-ils aussi beaux, ils ne peuvent pas aller au-delà, puisque, bon, ils sont parqués. Et vous avez des petits passages sur les Pyrénées, sur la beauté des cils pyrénéennes.
Je vais en lire quelques-uns parce qu'il y en a de nombreux.
Oui, mais juste pour donner envie et pour parler des Pyrénées.
Alors ça se situe encore au camp du Vernet et c'est le regard des prisonniers sur les montagnes. On se comprend, dans l'interminable déroulement des jours au camp, les mots de Pedro, le jour de son arrivée. Les montagnes, elles sont nos amis et nos ennemis. Les montagnes dévoilent leur beauté changeante, leur charme multiple, ostensiblement, aux yeux de ceux qui n'ont plus rien, dans une innocence impudique, insoutenable et indispensable. La chaîne des Pyrénées se déploie d'est en ouest. Personne ne peut détourner son regard, et avec elle, de l'aube au couchant, les couleurs les plus flamboyantes, les neiges éblouissantes, les raies du soleil agrippées au sommet, les versants ombreux, les saisons qui y naissent et s'achèvent. Les prisonniers sortent de leur baraque et ils les voient en pleine face, les montagnes, les jours de grande clarté, quand les brumes se déchirent. Le spectacle immuable et tragique de la beauté du monde. Tous lèvent la tête en sortant de leur baraque, incrédules. Les montagnes les remplissent d'espérance et de désespoir. Les deux imbriqués, chevillés l'un à l'autre, en équilibre pour ne pas sombrer.
Merci. Oui, donc il y a toujours cette double face des Pyrénées, donc pour ces personnes qui se retrouvent dans ce parc, donc avec la vie, la mort, si on peut dire. Mais après, les Pyrénées, donc, c'est un personnage à part entière, peut-on dire. Donc, José aime beaucoup les escalader avec l'agilité d'un isard. Il y entraîne sa compagne, il lui fait découvrir la beauté, tous les petits secrets, toutes les petites subtilités. Et là, les montagnes sont toujours belle, mais aussi porteuse de vie. C'est aussi pour se dépasser, pour toujours aller plus haut, si je puis dire. C'est vraiment une forte pulsion de vie aussi. Oui. Ce que vous avez fait vivre à ces deux personnages qui font leur histoire, qui composent avec leur passé, avec leur aussi fragilité, mais des fragilités qui après peuvent se révéler des forces aussi. Au fil, il faut juste savoir les tordre, si on peut dire, ou les... Oui. Et c'est vraiment une pulsion de vie.
Oui.
Et je trouve ça très beau, enfin, c'est cette pulsion de vie qui est entre ces deux personnages, qui comme ça, des fois, tant moi, lui, il peut paraître bourru, entre guillemets. Mais il y a toujours cette pulsion. Et d'ailleurs, la fin de votre roman aussi, c'est une... Je parlais tout à l'heure d'apaisement, donc toujours, ça va toujours vers la vie, enfin, me semble-t-il. Et après, il y a aussi, donc ça concerne cette... ce passage enfin, de l'histoire de 36 à, disons, les années 80, 90, vous le faites à
l'heure.
Mais après, ça s'ouvre aussi, la fin de votre roman s'ouvre de façon un peu plus large. Alors, ça évoque toujours l'exil des personnes, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont sur les chemins, qui fuient leur pays pour des raisons politiques. Et ça nous renvoie à une situation actuelle, notamment ces réfugiés syriens qui fuient leur pays. Non, et parce qu'en fait, vous avez rencontré une dame syrienne. Vous avez eu l'occasion de faire cette rencontre,
oui,
ici à Toulouse.
Oui, oui, et je vais peut-être terminer sur un passage concernant, non pas cette personne, mais elle représente, c'est comme un archétype.
Bien sûr, oui, c'est une entité en fait.
Voilà, du réfugié ou de la réfugiée.
C'est toujours d'actualité.
Tout le temps d'actualité. Donc c'est vrai
qu'après... Avec sa cohorte de malheur. Voilà,
après la fiction qui est le roman, après les personnages de fiction, là, nous sommes dans le réel.
Vous ouvrez une porte sur le réel.
Voilà,
c'est ça.
Oui. Tu avais un de ces gros sacs auxquels on reconnaît les réfugiés. Un vaste sac de nylon à carreaux bleus et noirs, muni de deux poignées, sans fermeture, un sac pour mettre tout, quand il ne reste rien. Quand tu as sonné à ma porte, j'ai dit, moi, à la grille de mon jardin que le printemps frileux tentait de faire bourgeonner, entre, sois la bienvenue, donne-moi ton sac, bêtement, pour te soulager du poids. Comme on peut le dire quand les sacs n'ont été que compagnons de voyages heureux, début de rêve, promesse d'exotisme. Je t'ai dit, donne-moi ton sac. Et tu l'as serré contre toi, avec ce sourire fatigué, indulgent, tandis que tes yeux ne cessaient de me fixer. Deux fosses noires. L'histoire de mes personnages, de près ou de loin, était secouée par les fureurs de l'histoire. Le printemps sanglant de Syrie faisait irruption dans la paix des rosiers justes éclos et entrait avec toi, épuisé, intimidé, toi qui m'interrogeais de tes yeux noirs profonds comme des puits. Dans ton vaste sac de nylon à carreaux, ton ordinateur et ton téléphone te reliaient au monde que tu avais fui. Tes pieds n'étaient pas gonflés par la marche, mais ton visage était le même que celui de tous les exilés. Interrogateur, creusé par les nuits sans sommeil, la fatigue des départs et des haltes du chemin, la perte de ce qui fut, le vide de ce qui sera. Ton sac, réceptacle de tes biens mêlés dans la hâte, dans la peur, dans la fuite précipitée de Syrie, et rangé à présent dans un placard. Il n'est plus ta maison, tes armoires, ton bureau, ton garde-manger. Les choses ont trouvé leur place. Combien de temps faut-il au peuple de l'exil pour trouver leur place? Combien de temps pour que tu puisses planter tes radicelles dans ce pays inconnu?
Merci. Donc ça, c'est le passage à la réalité, très concrète. Et vous pouvez me dire le nom de la dame dans votre roman?
Je lui ai donné un nom, Nousra.
Oui, mais ça, parce qu'il y a comme ça des petits clins d'œil avec des prénoms qui se retrouvent, dans le passé et dans le et qui ont des résonances avec l'actualité. Vous pouvez nous en dire deux mots. Il y a notamment le El Nusra parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire victoire.
Victoire.
Ou, voilà.
Oui, c'est quelque chose que j'ai ajouté à un épilogue quand je me suis interrogée sur le choix des prénoms que j'avais fait. Mm-hmm. A posteriori, je me suis interrogée, mais là, je laisse la découverte au lecteur parce que j'ai eu vraiment des chocs.
Oui, oui.
Des chocs de rencontres et qui m'ont éclairé sur mes choix inconscients de personnages. Mmh. Effectivement, la victoire, il y a aussi un personnage qui s'appelle Victor, qui veut dire victorieux aussi. Ouais. Voilà.
Et aussi le personnage d'Elia, c'est le personnage de notre héroïne contemporaine. Oui. Et vous avez rencontré une dame d'un certain âge, espagnole, qui s'appelle Elia, et qui disait que ce prénom était fort peu usité. Et vous lui avez redonné vie dans votre roman.
Voilà.
Donc c'est comme ça, c'est des choses les plus tristes, ce cheminement vers la vie, vers la beauté de la vie, et cette vie qui est toujours présente et qui est toujours plus forte, malgré toutes les vicissitudes.
Voilà. Et les étonnements de l'écriture aussi, parce que ces rencontres, évidemment, ce n'était pas prévu d'avance. Oui, oui. Et mes choix...
Comment quand la fiction et la réalité s'entremêlent.
Voilà,
et dont nous revenons toujours à leur chemin, l'histoire des chemins qui se croisent, qui des fois se séparent, qui se retrouvent, qui s'entremêlent. Donc, Leur chemin, c'est le roman de Marie-Hélène Nunez, qui est venue le présenter ce jour, et c'est publié aux éditions Hasard Atelier Éditions. Et là, en ce moment, il y en a dans les librairies toulousaines.
Oui.
S'il a été publié en fin 2017, hein, c'est ça?
Tout à fait, les derniers jours de 2017.
Décembre 2017.
Fin décembre, oui.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous de m'avoir interrogée.
Merci, Timothée. À bientôt.